Merveilleux, n'est-ce pas? Après plus d'une année de pandémie, nous en sommes à notre 7e journée intensive. Nous avons trouvé des façons de continuer à nous asseoir en zazen ensemble, malgré l'éloignement et l'absence. Dans ce mot d'accompagnement, je vous propose aujourd'hui une question. Que doit-on laisser derrière soi pour pratiquer le zen? Doit-on laisser quoi que ce soit? L'année de pandémie que nous venons de traverser nous a déjà obligés à nous défaire des robes que nous portons habituellement au centre zen de Montréal. Nous avons aussi laissé derrière nous le kyosaku, la plupart des rituels qui nous sont familiers, toutes nos sessions habituelles. Rien de tout cela n'est essentiel à la pratique. Mais laisser cela derrière soi, est-ce que ça suffit? Il y a plus de 2500 ans, les moines itinérants qui ont accompagné le Bouddha sur les chemins de l'Inde avaient laissé derrière eux leur maison, leur famille, leurs amis, leur travail. Ces hommes qui, comme vous et moi, étaient tous laïcs, devaient suivre 4 règles fondamentales. Mendier pour leur nourriture. Ne posséder qu'une seule robe, faite de morceaux de tissu rapiécés et cousus ensemble. Dormir et pratiquer sous les arbres et éviter tout divertissement. Comment ne pas éprouver une profonde gratitude envers eux lorsque l'on comprend que là se trouvent les racines mêmes du zen et que notre pratique encore aujourd'hui trouve sa source même dans leurs efforts et leur persévérance. 500 ans plus tard, Jésus demanda à ses disciples, qui eux aussi étaient tous laïcs, de laisser derrière eux femmes et enfants, famille et amis, maison et travail, pour le suivre sur les routes. Les origines du christianisme se trouvent là. Une poignée d'hommes errant en Galilée, qui ne savaient pas clairement où ils allaient, qui dormaient à gauche et à droite, qui se questionnaient et doutaient d'eux-mêmes. Ce n'est que beaucoup plus tard, tant dans le bouddhisme que dans le christianisme, que sont apparus les premiers monastères. Les moines ont alors cessé d'être itinérants. Ils avaient un toit, une communauté. Ils ont élaboré des règles de conduite, des rituels, des rites de passage. Bien sûr, ils laissaient, pour ainsi dire, le monde derrière eux et faisaient vœu de pauvreté, d'obéissance et de sobriété dans tous leurs désirs. Mais pour la plupart d'entre eux, l'errance était terminée. Ils pouvaient enfin se consacrer entièrement à leur quête spirituelle. Est-ce là ce que vous et moi, nous devons abandonner? Devons-nous laisser derrière nous nos compagnons et compagnes, nos enfants, amis, familles, laisser derrière nous notre travail, notre profession, les loisirs et les divertissements que nous apprécions? Est-il étonnant que la vie monastique en soit venue à être considérée comme la voie idéale vers Dieu, puisqu'elle exige que l'on laisse derrière soi le monde et que l'on remette en toute humilité et confiance sa vie entre les mains du divin. Selon ce point de vue, la pratique spirituelle laïque, aussi sincère soit-elle, ne serait au mieux qu'une pratique de second ordre et ne saurait être comparée à la vie monastique. Et pourtant, pensez à Vimalakirti, un commerçant indien prospère laïque qui vivait à la même époque que le Bouddha et dont l'éveil était comparé à celui de Shakyamuni lui-même. Un sutra porte même son nom, le sutra de Vimalakirti. Pensez aussi à Wineng, un paysan illettré du 7e siècle, qui gagnait pauvrement sa vie en coupant et vendant du bois, et qui pourtant devint éventuellement le 6e patriarche du Zen en Chine et laissa lui aussi un sutra célèbre, le sutra de l'estrade. Ou encore Pang le laïc, un époux et père de famille du 8e siècle, qui se défit un jour de ses biens pour vivre dans un ermitage et se consacrer pleinement, mais toujours en tant que laïc, à la pratique du zen et qui côtoya les plus grands maîtres zen de son époque. Dans son introduction aux écrits de Pang le laïc, Jeff Shore écrit, et je cite, la voie fondamentale du Bouddha s'écoule toujours librement et a toujours été accessible à tous. Rien, que ce soit une institution ou autre chose, ne peut empêcher cela. Fin de citation. Il y a toujours eu dans l'histoire du Zen des moines et des laïcs qui ont préféré rester en dehors du système établi et qui ont rejeté les pratiques formelles pour se consacrer seuls à la recherche de l'éveil. Ils vivaient la plupart du temps très pauvrement, mendiant leur nourriture dans les villages et habitant de modestes ermitages isolés en montagne ou en forêt. La vie monastique est à n'en pas douter d'une très grande valeur. Toute l'histoire du Zen en témoigne. Mais elle est mourante aujourd'hui. Jeff me racontait un jour qu'au temple de Tofukuji, où il a lui-même étudié et pratiqué à Kyoto pendant des années, il ne reste que 7 moines. Il en va de même en Occident. La vie monastique zen, telle qu'elle s'est développée en Orient au cours des millénaires, ne s'est jamais véritablement implantée en Occident. Le zen occidental est résolument laïque. Mais la question se pose toujours. Que doit-on laisser derrière soi pour pratiquer le zen? En tant que laïque, que devons-nous abandonner? Laissez-moi vous raconter une anecdote tirée des écrits de Pang le laïc. La voici. Un jour, Pang était étendu sur son lit et lisait un sutra. Un moine le vit et s'écria, « Laïc, il faut toujours maintenir une posture digne lorsqu'on lit un sutra. » À ces mots, Pang leva une jambe. Le moine ne trouva rien à dire. Et maintenant, un détour par mon histoire personnelle. Vers l'âge de 10 ans, j'étais enfant de chœur, et pendant la messe, mon rôle consistait à allumer l'encens, à verser l'eau et le vin pour le prêtre, et à sonner délicatement les cloches à certains moments. Dans mon jeune esprit, il n'était pas question de Dieu dans tout cela. Non, j'aimais simplement être là. Je m'y sentais bien. Porter la soutane et le surplis, me montrer attentif à chaque geste, garder les yeux baissés, murmurer à voix basse. Lorsque, de nombreuses années plus tard, je suis arrivé au Centre Zen de Montréal et que l'on m'a initié au rituel, c'était comme si un jeune enfant de cœur de 10 ans entrait dans un magnifique zendo. Un peu comme le moine dans l'anecdote avec Pang le laïc, Je croyais alors qu'être pleinement attentif aux rituels et les exécuter correctement faisait sûrement partie d'une pratique spirituelle sincère et irréprochable. Je m'exerçais donc pendant des heures à scrupuleusement maîtriser à la perfection le moindre rituel. Et là, peigne le laïc, lève une jambe. Que disait-il alors au moine qui le visitait, ou plus de 1000 ans plus tard, à ce vieil enfant de cœur qui était si occupé à être parfait? Que devons-nous vraiment laisser derrière nous pour pratiquer le zen? Devons-nous en fait abandonner quoi que ce soit? Ou encore mieux peut-être, pouvons-nous, par notre seule volonté, abandonner quoi que ce soit? L'une des façons de creuser cette question est d'essayer de discerner le plus clairement possible ce que nous attendons de la pratique. Que cherchons-nous? À quoi attachons-nous notre pratique? Par exemple, est-ce que j'espère devenir une meilleure personne? Une personne patiente, compréhensive ou plus aimante? Est-ce que je ressens qu'il me manque quelque chose de fondamental et que, d'une certaine manière, la pratique du zen va me réparer? Ou est-ce que j'espère que je pourrai surmonter mes difficultés émotionnelles et trouver une certaine paix d'esprit et plus de sécurité intérieure? Ou encore, suis-je à la recherche d'une vérité quelconque ou d'un éveil spirituel qui viendrait effacer toute ma souffrance? Ce que nous cherchons à atteindre par la pratique, et chacun de nous doit sincèrement et honnêtement le voir profondément en lui-même, c'est cela que nous devons laisser derrière nous pour pratiquer le zen. Le cadre à l'intérieur duquel nous le faisons, qu'il s'agisse d'un monastère ou de la vie laïque, que ce soit par le zen ou toute autre forme de pratique spirituelle, est secondaire. Nous devons simplement le faire là où nous sommes. Dans ses annales, le maître Rinzai, qui vécut en Chine au 9e siècle, nous dit: si votre esprit ne cherche pas ou n'est pas en quête de quelque chose, vous pourrez le garder serein et sans souci. Libérez votre esprit de ses illusions et n'en créez pas de nouvelles. En d'autres mots, la quête elle-même doit cesser. Nous devons, un jour ou l'autre, laisser derrière nous tout ce que nous apportons à la pratique et tout ce que nous attendons d'elle. Mais comment allez-vous faire cela? Nous ne pouvons tout simplement pas y arriver. Comment puis-je chercher à ne pas chercher? On voit bien ici comment le soi peut s'en mêler lui-même, tournant sans cesse en rond, essayant de se dépasser lui-même. C'est impossible. Et si nous essayons de le faire, un profond sentiment d'échec en résulte presque fatalement. Ici, le soi joue à cache-cache avec lui-même. L'on essaie alors de contrôler notre pratique, d'appliquer des techniques, de trouver des raccourcis, utilisant des koans pour atteindre quelque chose, observant et contrôlant chaque respiration, avec l'espoir qu'en faisant cela, on arrivera bien quelque part. Mais où? Savez-vous vraiment ce que vous cherchez? Nous demande encore Maître Rinzai. Un jour en Dokusan, mon maître m'a dit: tu sais, Louis, tu n'y arriveras jamais. Il m'aura fallu des années de pratique avant que ces mots atteignent mon cœur et mes os. Dans son manuel du Zazen, le Fukan Zazenji, Maître Dogen écrit « La voix s'écoule librement. Comment pourrait-elle dépendre de la pratique ou de l'effort? » Ce n'est pas en faisant l'effort de ne pas chercher que l'esprit qui cherche en vient à s'apaiser. C'est en libérant tout ce que l'on cherche, en ouvrant la cage, pour ainsi dire, en accueillant avec bienveillance tout ce que l'on découvre alors, et en laissant tout cela, les rêves de bien-être, le rêve de devenir une meilleure personne, le rêve de s'éveiller, de connaître enfin la paix et la sécurité, en laissant tout cela descendre dans la respiration, se dissoudre peu à peu, sans rien forcer, avec patience, humilité et compassion pour soi-même, sans rien refuser de ce qui est et sans rien en retenir. En ayant confiance que la voix du Bouddha s'écoule déjà librement en chacun de nous, et que, dans la mesure où nous la laissons faire son chemin en nous, elle nous conduira à notre vraie demeure. Lorsque finalement nous y serons, qu'aurons-nous vraiment laissé derrière nous? Nous sommes déjà là où nous allons.